Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 13 août 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Au moins 4 personnes sont mortes depuis mercredi en Côte d'Ivoire lors de manifestations contre la candidature du président Alassane Ouattara. Au Burkina Faso, l'imam de Djibo, Souabou Cissé, a été enlevé par des hommes armés en revenant de Ouagadougou. Les forces de sécurité soudanaises sont déployées à Port-Soudan après des violences tribales qui ont fait plus de 30 morts depuis dimanche. Après l'Égypte et la Jordanie, les Émirats arabes unis renouent avec Israël, une première pour les pays du Golfe. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Au moins 4 personnes sont mortes depuis mercredi en Côte d'Ivoire lors de violences liées à la candidature du président Alassane Ouattara. Un jeune de 18 ans a été tué ce jeudi à Bonoua lors de heurts entre manifestants et forces de l'ordre, a annoncé le maire de la ville, Jean-Paul Amétier. D'autres sources ont fait état d'au moins 3 morts à Daoukrou lors d'affrontements mercredi entre des partisans de l'ex-président Henri Konan Bédié et des jeunes favorables à Alassane Ouattara. Au Burkina Faso, l'imam de Djibo, Souabou Cissé, a été enlevé mardi par des hommes armés à son retour de Ouagadougou entre Namsigia et Djibo. Le point avec notre correspondant Kader Traoré.
Le patriarche de 73 ans revenait de Ouagadougou où il avait pris part à un mariage. Il était à bord d'un car de transport en commun qui avait été arraisonné vers Namsigia, une localité située à une trentaine de kilomètres de sa destination Djibo. L'imam Cissé est un leader communautaire très respecté, mais depuis son enlèvement, le gouvernement garde le silence. Selon les témoins, le bus a été fouillé par les ravisseurs qui ont vérifié l'identité de tous les passagers avant d'amener le responsable religieux avec eux. Souabou Cissé est également le président de la communauté musulmane de la province du Soum. Surnommé le Gandhi, c'est-à-dire le sage, il faisait l'objet de menaces de mort sur son téléphone. Son domicile avait été brièvement placé sous haute surveillance des forces de l'ordre. Des forces de l'ordre qui ont levé leur garde en février dernier sans explication, selon les proches de l'imam qui se sont confiés à la presse. En mai 2017, sa maison avait essuyé des tirs d'hommes armés. Malgré tout, il aurait refusé de quitter la ville, selon ses proches. Le tronçon Namsigia-Djibo, à moins de 200 km de la capitale, est soumis à de nombreuses attaques. Un blocus de Djibo avait été imposé par des terroristes pendant plusieurs mois. En juin dernier, c'est en hélicoptère que le président du Faso Roch Kabore s'est rendu à Djibo, sa seule visite de la localité depuis le début de son quinquennat. Les habitants lui avaient demandé la sécurisation de cette principale voie qui les lie à la capitale. C'est d'ailleurs sur cette même route que l'ancien maire de Djibo, Oumarou Diko, a été assassiné le 3 novembre 2019. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.
Les fortes précipitations qui s'abattent depuis juin sur le Niger ont fait 33 morts et plus de 80 000 sinistrés, ont indiqué les autorités. Plus de 9 000 maisons se sont écroulées et au moins 2400 têtes de bétail ont péri. Les autorités ont lancé des opérations de distribution de riz, de couverture et de savon. Les régions les plus touchées sont Maradi, Taoua, Tillabéri et Dosso. Amnesty International a appelé les autorités de Kano au Nigeria à annuler la condamnation à mort prononcée par un tribunal islamique contre un chanteur accusé de blasphème contre le prophète Mahomet. Un tribunal islamique a condamné lundi à la pendaison Yahya Aminu Sharif, un musicien de 22 ans. La diffusion d'une de ses chansons avait provoqué une émeute à Kano, grande mégapole musulmane dans le nord du Nigeria. Dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, au moins 4 jeunes, dont une adolescente, ont été tués dans une embuscade à Makele, dans la région de Beni. Les victimes sont 3 garçons et une fille de 16 ans qui allait effectuer des travaux d'intérêt communautaire, a déclaré Richard Kiwazanga, un administrateur du territoire de Beni. Les autorités accusent les rebelles ADF d'être responsables de la tuerie. Les forces de sécurité soudanaises se sont déployées massivement à Port-Soudan pour tenter d'enrayer les violences tribales qui ont fait plus de 30 morts et 116 blessés en 5 jours. Les accrochages se sont poursuivis jusqu'à mercredi. Nani Talani.
Selon le ministère soudanais de l'Intérieur, le gouvernement a déployé des troupes pour stabiliser et sécuriser la ville. Arrivé mercredi de Khartoum, les renforts de l'armée et de la police se sont déployés, ont établi des checkpoints, fouillé des voitures et arrêté plusieurs personnes, a indiqué un habitant. Ces troupes ont été rejointes aujourd'hui par les paramilitaires des forces de soutien rapide pour tenter de mettre fin aux violences tribales qui opposent les Nubiens et les Beni Amer depuis dimanche. D'après des témoins, des membres de la tribu nubienne qui revenaient de la région du Kordofan Sud où ils avaient participé à une manifestation contre le nouveau gouverneur ont pénétré dimanche dans le quartier de Dar el Naïm, un fief de la tribu des Beni Amer. Des combats armés ont alors éclaté entre les deux camps. Les autorités locales avaient décidé d'étendre le couvre-feu nocturne instauré depuis dimanche à toute la ville. C'est par le port Soudan, dans le nord-est du pays, que transite la plus grande partie du commerce extérieur du Soudan.
Un leader des frères musulmans est décédé de mort naturelle dans la prison de Tora en Égypte, selon son avocat Maître Maksoud. Ancien député et vice-président du parti Liberté et Justice, Issam Al-Erian avait été arrêté en 2013 après la destitution du président Mohamed Morsi. Il avait été inculpé pour collaboration avec des groupes terroristes dont le Hamas palestinien et condamné à la perpétuité avec des dizaines d'autres frères musulmans.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Avec plus de 20,6 millions de cas et plus de 750 000 décès, la pandémie de coronavirus continue de se propager dans le monde. Claire Morin-Gibourg.
Avec près de 8000 morts en une semaine, les États-Unis ont eu plus de nouveaux décès devant le Brésil et l'Inde. L'Amérique latine, région la plus touchée au monde, veut produire d'urgence le prochain vaccin, qu'il vienne de Russie ou d'Europe. L'Argentine et le Mexique produiront le vaccin anglo-suédois d'AstraZeneca. Le Brésil a signé un protocole d'accord avec la Russie pour essayer et produire son vaccin Sputnik V. Devant la hausse des cas en Europe, l'Italie a durci les conditions d'entrée des voyageurs, même si un nouveau confinement de tout le pays est hautement improbable selon les autorités sanitaires. L'Irak a annoncé un record de contamination avec près de 3900 nouveaux cas. L'Afrique reste le continent le moins touché, mais les décès dus au paludisme pourraient doubler cette année selon les chercheurs de l'Imperial College de Londres, car le coronavirus perturbe la distribution de moustiquaires et les traitements contre la malaria.
Moins d'un million d'Américains se sont inscrits au chômage la semaine passée, une première depuis fin mars, mais le niveau reste élevé. La Maison Blanche et le Congrès ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord sur une nouvelle aide financière. Nous y reviendrons dans les dossiers du jour. Les Émirats arabes unis ont affirmé avoir obtenu d'Israël qu'il abandonne un projet d'annexion de pans de la Cisjordanie en échange d'une normalisation des relations entre Abu Dhabi et l'État hébreu. Ce projet était porté par le président américain Donald Trump dans le cadre d'un plan de paix pour le Proche-Orient. Le plan d'annexion est reporté, mais nous n'y avons pas renoncé, a réagi le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le FBI va se joindre aux enquêteurs libanais et internationaux pour tenter de déterminer les causes de l'explosion qui a ravagé le port de Beyrouth, a déclaré le sous-secrétaire d'État pour les affaires politiques David Hale en visite dans la capitale libanaise. La ministre française des armées Florence Parly est également dans la capitale libanaise pour accueillir un porte-hélicoptère chargé d'aide. Bagdad a annoncé avoir contacté ses voisins et la Ligue arabe pour obliger la Turquie à retirer ses hommes d'Irak où ils combattent le mouvement kurde PKK. Mardi, un drone turc a tué deux hauts gradés et un soldat irakien lors d'une opération au Kurdistan irakien. Bagdad a annulé la visite du ministre turc de la Défense ce jeudi. Les forces iraniennes ont arraisonné un pétrolier dans les eaux internationales utilisant un hélicoptère et deux navires pour en prendre le contrôle, a déclaré le commandement central de l'armée américaine. Les États-Unis accusent régulièrement l'Iran de mener des opérations dans les eaux stratégiques du Golfe. Au Bélarus, des milliers de personnes ont formé des chaînes humaines à Minsk ce jeudi pour dénoncer la répression des manifestations contre la réélection du président Alexandre Loukachenko. Dans certains quartiers, les chaînes se sont transformées en marches. Le ministère de l'Intérieur a annoncé avoir arrêté 700 personnes la veille. 103 policiers ont été blessés depuis dimanche et 28 sont hospitalisés. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par John Lyndon.
Au Gabon, Alain Ba Oumar a été reconduit dans ses fonctions de président du patronat pour un mandat de 3 ans. Une reconduction validée par le conseil d'administration de la Confédération patronale gabonaise et qui intervient au moment où l'État gabonais cherche l'appui du secteur privé pour la relance économique post-Covid. Selon les perspectives de la BAD, la Banque africaine de développement, l'économie gabonaise pétrolière pourrait connaître une récession de moins 7,5% en 2020. L'ONATEL, l'Office national des télécommunications du Burkina Faso, annonce avoir enregistré une hausse de 5,1% au premier semestre, passant de 13 milliards de francs CFA au 30 juin 2019 à un peu plus de 14 milliards de francs CFA un an plus tard. Le chiffre d'affaires de l'ONATEL est également en hausse de 2,1%, s'établissant à 79 000 milliards de francs CFA. Les nouvelles inscriptions au chômage ont baissé aux États-Unis, passant sous la barre du million pour la première fois depuis mars, selon les chiffres publiés ce jeudi par le département du travail. Quelque 963 000 personnes se sont inscrites au chômage entre le 2 et le 8 août, en baisse par rapport aux 1,19 million de la semaine précédente.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. L'attaquant du tout-puissant Mazembe, Jackson Muleika, prend finalement la direction de la Belgique. Le meilleur buteur de la Ligue des champions de la CAF avec 7 buts et comme meilleur buteur du championnat de la RDC, 12 réalisations, va évoluer sous les couleurs du Standard de Liège. Le montant du transfert du jeune attaquant de 20 ans n'a pas été révélé, encore moins la durée de son contrat. Mais une chose est sûre, tout s'est passé dans les règles de l'art. Jackson Muleika.
Le président qui est mon papa, je lui ai demandé si je pouvais partir, tenter la chance ailleurs. Il m'a dit que je le pouvais si le club venait dans le normal. C'est ce qui est arrivé. Le Standard est venu vers le club et ils ont négocié pour trouver un accord.
Jackson Muleika, nouvel attaquant du Standard de Liège. Et puis, le Camerounais Eric Maxime Choupo-Moting a envoyé le PSG dans le dernier carré d'as de la Ligue des Champions. Entré en fin de rencontre, le Lion indomptable a inscrit le but qualificatif de son club à la 93e minute, permettant à Paris de l'emporter 2-1 et de retrouver les demi-finales de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 1995. Eric Maxime Choupo-Moting.
C'était un moment exceptionnel. Quand je suis entré, le coach m'a dit de tout donner. Et moi, j'ai eu confiance en moi, confiance à l'équipe. Je pense que toute l'équipe n'a jamais perdu l'espoir.
Eric Maxime Choupo-Moting, attaquant du PSG, dont le contrat avec les Parisiens prend fin après la Ligue des Champions. Le deuxième quart de finale se joue ce soir entre les Allemands de Leipzig et l'Atlético Madrid du Ghanéen Thomas Partey. Et puis, l'international français Blaise Matuidi va rejoindre l'Inter Miami et le championnat américain de football. L'annonce a été faite par le club floridien. Matuidi, 33 ans, a annoncé hier son départ de la Juventus Turin. Il va retrouver à Miami David Beckham, son ancien coéquipier au Paris Saint-Germain et l'un des copropriétaires du club qui fait ses débuts en MLS cette saison. On reste ici aux États-Unis pour parler de la NBA dont le tableau des playoffs est connu. À l'Est, Milwaukee fera face à Orlando et Toronto affrontera Brooklyn. Boston sera opposé à Philadelphie et Miami à Indiana. À l'Ouest, les Los Angeles Lakers attendent toujours de connaître leur adversaire. Leurs rivaux des Clippers joueront contre Dallas, à suivre dans les deux autres oppositions, Denver-Utah et Oklahoma City-Houston. Le premier tour des playoffs se dispute au meilleur des 7 matchs. La première équipe avec 4 victoires étant qualifiée pour le tour suivant.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En Guinée, alors que le parti du président Alpha Condé sollicite sa candidature à l'élection présidentielle du 18 octobre, des voix s'élèvent au sein de l'opposition pour dénoncer les manquements du gouvernement en matière institutionnelle. Le point avec Zakaria Camara, notre correspondant à Conakry.
C'est une plainte déposée par une partie de l'opposition guinéenne, membre du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution. Les plaignants ont saisi le président de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, afin de dénoncer ce qu'ils considèrent comme des manquements de la Guinée en matière institutionnelle. L'opposant Baouri explique.
Vous savez que la Guinée a violé parfaitement les dispositions d'intangibilité de la Constitution de 2010 pour imposer un changement anticonstitutionnel. Ensuite, le texte qui a été proposé pour le référendum du 22 mars a été aussi changé après le référendum au profit d'un texte qui a été acté comme étant la Constitution par la Cour constitutionnelle, sans pour autant avoir été au préalable présenté à la population. Donc tout cela, ce sont des vices de forme extrêmement graves qui font que la Guinée est en dehors des dynamiques de convergence constitutionnelle que le protocole additionnel de la CEDEAO de bonne gouvernance a mis en place.
Pour ce Guinéen, les opposants sont dans leur droit de défendre la constitution de 2010.
Bon, je pense que c'est normal pour le FNDC. N'est-ce pas, de se plaindre et plus loin de saisir la cour de la CEDEAO pour ce délit qu'il reproche au gouvernement guinéen. Ça serait très scandaleux si cela est avéré, que le pays ait 2 constitutions différentes, en plus de celle que ce FNDC d'ailleurs défend.
Le 22 mars dernier, la Guinée a organisé un référendum constitutionnel qui aboutit à l'adoption d'une nouvelle constitution qui n'interdit pas au président Alpha Condé de se représenter. Selon Kabiné Fofana, analyste politique, cette plainte a tout son sens.
Il s'agit dans la plainte du FNDC d'expliquer que Alpha Condé entrait en fait dans l'objectif de changer la constitution, d'aller vers une nouvelle candidature, donc un nouveau mandat. Et il y a un certain nombre de lois au niveau de la sous-région, notamment le protocole additionnel de la CEDEAO et d'autres législations qui régissent un peu et qui bannissent l'idée des nouvelles constitutions pour l'objectif de se tenir au pouvoir. Donc c'est là où cela va jouer. C'est-à-dire que le FNDC va démontrer que le président Alpha Condé est en train en réalité de partir à porte-à-faux d'une législation ou des traités auxquels notre pays a souscrit.
Le président Alpha Condé a été choisi il y a quelques jours par son parti candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre. Sa réponse est attendue, mais déjà certaines personnalités se sont déclarées candidates à la prochaine élection présidentielle. C'est le cas de l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Makalé Camara. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. Ce jeudi 13 août 2020, la République centrafricaine célèbre le 60e anniversaire de son indépendance. Une cérémonie marquée par une parade militaire sur la grande avenue de Bangui. Retour sur la proclamation de l'indépendance de ce pays fragilisé par les conflits avec Freeman Sipila, correspondant de VOA Afrique à Bangui.
Indépendance, ma bandière CAE.
Âgé aujourd'hui de 92 ans, Monseigneur Joseph Maringui avait 32 ans le jour de la proclamation de l'indépendance de la République centrafricaine le 13 août 1960.
À un moment donné, quand Dako a prononcé le discours de l'indépendance, alors le drapeau français qui était en haut descendait, on tirait en bas. Et le drapeau centrafricain montait, cette image m'est restée.
La joie, l'émotion, mais il y a aussi le doute et la crainte parmi les centrafricains, Monseigneur Joseph Maringui.
C'était la joie comme aussi le doute. Beaucoup pleuraient, pourquoi? Parce qu'ils doutaient de la gérance de notre pays. Certains disaient, est-ce que vraiment le Zoubanguien, devenu aujourd'hui centrafricain, est-ce qu'ils vont faire exactement comme le blanc?
1er janvier 1966, le jeune État connaît son premier coup d'État. Jean-Bédel Bokassa prend le pouvoir en renversant le président David Dacko. Bokassa se proclame empereur en 1976 avant d'être chassé par un autre coup d'État conduit par la France en 1979. C'est le début d'un cycle de crise militaro-politique à répétition.
Ce que je loue quand même à Bokassa, c'est que quand il était au pouvoir, on travaillait. C'était un moment où les gens travaillaient beaucoup. On n'avait pas besoin de courir en France ou ailleurs pour avoir l'argent. Ben, c'était une triste époque, parce que nous étions revenus en arrière pour l'Empire. Et tout le monde a boudé cela.
Félix Ambouadé, ancien militaire et cadre de l'UBAC à la retraite, avait 9 ans le jour de la proclamation de l'indépendance. Pour lui, il y a une nette différence entre l'époque post-coloniale et nos jours.
Dans notre temps, c'était le respect envers les parents, que ce soit pas ton papa ni ta maman, mais tu dois obéir à n'importe qui se présente, et ça a été bon. Il n'y avait pas des provocations, des divisions, des races, il n'y en avait pas. Maintenant, là, il y a la division.
60 ans après la proclamation de son indépendance, la République centrafricaine affiche un tableau sombre et est à la traîne comparée aux États voisins de la sous-région. Pour le président actuel Faustin Archange Touadéra, seule l'unité peut reconstruire la République centrafricaine.
Nous avons désormais notre destinée en main. Nous devons progressivement réaliser les rêves légués par nos pères fondateurs. C'est aussi l'occasion de réaffirmer la responsabilité qui nous incombe d'œuvrer tous ensemble pour consolider l'unité nationale, retrouver le vivre ensemble et la cohésion sociale. Notre pays franchit les étapes de développement de manière graduelle grâce à vos efforts conjugués. C'est le fruit de notre détermination, de votre détermination et la volonté claire de tourner les pages sombres des crises récurrentes qui ont causé d'immenses souffrances à nos populations.
Pour la première fois depuis plusieurs décennies, un défilé militaire a marqué ce 13 août 2020 le 60e anniversaire de l'indépendance de la République centrafricaine. Freeman Sipila Bongi pour VOA Afrique.
La pandémie de Covid-19 a mis à mal les finances de dizaines de millions de ménages américains qui peinent à payer leur loyer. Selon des données du Bureau du recensement, environ 30% des Américains disent avoir peu confiance en leur capacité à payer le loyer du mois suivant. Au moins 40 millions de personnes courent le risque d'être expulsées, estime l'Institut Aspen. Pour connaître l'impact sur les communautés d'origine africaine, Eric Manirakiza a joint à New York notre confrère Dambabou.
Bon, il faut dire que la pandémie a eu un impact colossal sur les activités professionnelles de la communauté africaine ici à New York et dans la côte Est en général, parce que vous pouvez retenir 4 activités qui sont essentiellement celles que les Africains pratiquaient. D'abord, c'est les chauffeurs de taxi, ça c'est important, et vous savez qu'avec la pandémie, cette activité était complètement à l'arrêt. Pas plus tard que hier, la commission taxe, le médecin de commission disait que 50 000 chauffeurs de taxi ont été en fait emportés par la maladie. Ensuite, les femmes qui font les tresses, donc la proximité physique que ce métier exige, faisait que ce métier a été complètement pratiquement à l'arrêt aussi. Et il y a aussi les restaurants. Vous pouvez savoir que les restaurants ont été complètement fermés. Donc, ce type de métier, ces 3 en tout cas au moins, ont été importants pour la communauté africaine. Et ces métiers ont été les premières victimes pratiquement de cette maladie. Et donc, ça a créé beaucoup de difficultés au niveau de la communauté.
Beaucoup d'Américains risquent d'être expulsés dans leur maison parce qu'ils ne peuvent pas payer leur loyer. Est-ce que c'est la même situation?
C'est la même situation, comme je vous l'ai dit. Parmi les métiers que je citais tout à l'heure, il faut ajouter les gens qui vendaient aussi dans la rue, qui avaient comme principaux clients les touristes. Le tourisme a été arrêté à New York, par exemple. Donc, ça a été complètement un problème pour payer le loyer parce que les gens qui n'avaient pas de métier avec un salaire, avec un paycheck, comme on dit en anglais, qui vient tous les 15 jours, qui dépendait de leur activité quotidienne pour prendre en charge les frais au niveau de la maison. Si le mari était chauffeur de taxi, la femme était, si vous voulez, hairdresser dans les salons de coiffure, etc. C'était très, très compliqué. Donc, quand on a eu effectivement ce paiement d'assurance chômage, ça avait vraiment beaucoup aidé et ça se sentait même au niveau des regroupements des Africains. Quand vous les fréquentez, vous vous rendez compte que ces gens-là n'avaient pas les moyens d'avoir un boulot avec télétravail et autres qui étaient complètement à l'arrêt. C'était vraiment quelque chose d'important, mais c'est devenu très, très compliqué depuis que ce paiement a été arrêté. Et on n'est pas sûr que le Congrès et la Maison-Blanche vont se mettre d'accord encore pour reprendre et dans quel terme, même s'ils devaient reprendre ce paiement.
C'était le journaliste Dambabou, il était joint à New York.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez suivre l'actualité en continu sur voaafrique.com et sur notre page Facebook. Très bonne soirée à toutes et à tous.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
En début juin, l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, a alloué plus de 350 millions de dollars aux pays d'Afrique subsaharienne pour les aider à faire face à la pandémie du COVID-19. Ces fonds assureront que nous continuons notre mission et travailler en vue de sauver les vies, de même que nous soutenons nos pays partenaires dans leur propre réponse au COVID-19, a déclaré l'administrateur adjoint par intérim pour l'Afrique, Chris Maloney. Mais l'enjeu est beaucoup plus vaste. Ce qui me tient éveillé la nuit, plus que tout, ce sont les effets au 12e et 3e degré du COVID, a expliqué l'administrateur adjoint Chris Maloney.
What I mean by that are the economic issues, right? So
je veux dire par cela les effets économiques. Nous passons donc beaucoup de temps actuellement à réfléchir sur des sujets comme la sécurité alimentaire et pour l'USAID, comme vous le savez, nous travaillons dans le secteur rural, mais c'est de plus en plus un problème urbain. Ainsi, lorsque nous avons des gens en confinement, comment envisager des problématiques comme les transferts d'argent, l'approvisionnement des marchés urbains par les marchés ruraux? Ce sont là des questions clés pour nous. L'un des problèmes que nous voyons actuellement à travers l'Afrique a trait aux pays ayant un bas niveau d'engagement, chose pouvant aider ou bloquer un pays. Et ceux qui utilisent le COVID comme moyen d'accroître l'autoritarisme à travers le continent, a dit l'administrateur adjoint intérimaire Maloney. Ainsi, par exemple, plus de 20 000 Zimbabwéens ont été arrêtés pour violation des règles du confinement. Il y a des allégations de violation des droits humains. Nous voulons donc nous assurer de réfléchir sur la manière dont nous pouvons appuyer le plaidoyer de la société lorsque des tels défis surgissent. Dans le même temps, a dit l'administrateur adjoint Maloney, il y a aussi beaucoup de fausses informations qui sont diffusées. Ainsi, nous venons juste de débourser des fonds dans plusieurs pays du Sahel et d'autres parties de l'Afrique de l'Ouest pour œuvrer avec les stations de radio et les groupes de la société civile pour contrer la désinformation, assurer que le bon message passe sur comment faire face à la crise. J'ai confiance, a dit l'administrateur adjoint Maloney, que nos relations et expériences avec les pays partenaires africains au cours des décennies passées continueront de nous aider à attaquer de front la crise actuelle du COVID-19, mais aussi les questions plus globales de développement.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.